Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Nous voici déjà rendus au mois d'octobre pour la 136e émission du Guide de l'auto. Salut Germain.
Bonjour Antoine.
Bon, écoute, on va parler un peu plus tard dans l'émission à Denis Leclerc, qui est président de Albi le Géant. Vous avez entendu sa voix quelque part, c'est certain. Alors, on va discuter de pénurie de véhicules, de pénurie de main-d'œuvre avec lui un petit peu plus tard. En attendant, bien, quelques actualités, à commencer par la confirmation du retour de l'Acura Integra.
Oui, effectivement. Donc, grande nouvelle. On avait vu quelques rumeurs passer cet été. Un premier petit teaser. On se demandait bien quelle forme cette voiture-là allait prendre. Est-ce que ça allait être un coupé saveur sportive comme on a pu connaître par le passé? Mais finalement, ce sera une compacte à haillons. Donc, 4 portes plus le haillon, 5 portes. Comme ça a été le cas aussi par le passé, mais c'est peut-être pas ce à quoi on rêvait nécessairement. Et connaissant la proximité entre Honda et Acura, on s'imagine bien que la nouvelle Integra, ce sera une Civic à haillons endimanché, là. J'espère qu'on pourra la distinguer, qu'on pourra en faire un produit complètement différent, même si on partage les motorisations et l'architecture, ce sera important là de mettre une séparation bien claire entre ces deux voitures-là. D'autant plus que la Civic est elle-même de plus en plus endimanchée,
là. Bourgeoise.
Là, bourgeoise, oui. Voilà. Donc, ce sera intéressant de suivre ça dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Mais je trouve ça intéressant qu'on ramène le nom Integra chez Acura. Parce qu'on sait à quel point les choses ne se font pas rapidement chez cette division-là. Non. On a adopté, il y a plusieurs années, une nomenclature numérique, donc par code numérique, donc TSX, TLX, ouais. MDX, RDX, c'est que ces noms-là, NSX aussi. Et évidemment, de ramener un nom comme Integra ou... Est-ce qu'on ramènerait légende à un moment donné? Mais est-ce que ça ne cadre pas avec la direction qu'on a prise?
C'est vrai.
Mais j'ai l'impression que chez Acura, on est en train de commencer à accepter le fait qu'on a peut-être fait des erreurs et qu'il faudrait modifier la direction un petit peu de la marque ou la vision qu'on avait de cette marque-là il y a quelques années. Parce que, évidemment, l'emblème bas de l'aile un petit peu, on veut redorer le blason de cette division-là.
Ça va pas aussi mal que chez Infiniti, mais ça pourrait quand même aller mieux chez Acura. Et bon, l'arrivée de cette future Integra-là, ça veut dire quoi pour l'ILX? Ça veut dire l'heure de la retraite a sonné.
Je ne l'ai pas nommé tantôt.
Non, c'est ça, mais j'ai l'impression que l'heure de la retraite est arrivée.
Oui, parce que de toute façon, des voitures compactes comme l'ILX, ben écoute, une Honda Civic, ça se vend le prix d'une ILX aujourd'hui. Oui. Alors, il n'y a aucune logique que de garder ça dans la gamme Acura. Autre nouveauté qui a été dévoilée, mais ça, on le savait, là, c'était pas une surprise parce qu'on avait vu des esquisses en plus, c'est le nouveau Jeep Grand Cherokee, mais dans sa version régulière, pas dans sa version allongée. Je peux te dire que je préfère de beaucoup cette configuration-là au niveau esthétique.
Oui, effectivement, parce que, bon, depuis quelques semaines déjà, les Grand Cherokee, elles, donc avec 3 rangées de sièges, sont arrivées chez les concessionnaires. Ouais. Mais on continuait de voir, entre guillemets, le vieux Grand Cherokee le côtoyer et il y avait un certain clivage, mais bon, lui aussi a droit à une dose d'un peu de modernité et tu le trouves plus beau, oui, il a moins l'air d'une version allongée parce que justement il n'a pas été allongé. Bref, c'est un petit peu plus beau. La grande nouvelle quand même, c'est parce qu'au chapitre des motorisations, bon, on on a le V6 Pentastar. Oh, quelle nouvelle, quelle révolution.
Le V8 est mis haut.
Quelle grande révolution encore, mais on ajoute une version hybride rechargeable, un peu comme on avait
4XE.
Fait avec le Wrangler 4XE, justement. Donc, on va avoir droit à un moteur turbo compressé de 2 litres et de 2 moteurs électriques pour un total là, de 375 chevaux. J'ai hâte de voir le rendement que cette mécanique-là aura dans un véhicule de cette dimension-là. Moi, j'avais pas été particulièrement impressionné et charmé par la mécanique 4XE pour le Wrangler. Alors, ce sera intéressant à suivre bientôt.
Bon, on n'a pas de détails non plus sur des versions SRT qui pourraient arriver ultérieurement. Par contre, on
sait que c'est des versions très payantes pour le Grand Cherokee et ça participe à bâtir l'image de marque de Jeep et à développer le côté testostérone débordante. Mais là, on n'a rien dévoilé de ce côté-là. Mais à moins qu'il y ait un gros resserrement des normes anti-pollution, je m'attends à ce que ça débarque d'ici la prochaine année.
C'est intéressant que tu mentionnes ça parce qu'on a aussi eu vent que le Jeep Wrangler 392, donc un moteur 6,4 litres V8, oui, vous avez bien entendu, c'est un véhicule qui existe, mais qui n'existe pas encore sur le marché canadien. Les concessionnaires ne peuvent même pas en commander au moment où on se parle.
Alors qu'aux États-Unis, on en livre. Oui, c'est ça, on en livre. Et il y a un flou qui existe autour de ce véhicule-là pour le Canada. Est-ce que c'est juste une question de délai? Est-ce qu'on l'aura plus tard? On ne le sait pas, mais pour le moment, il y a une chose qui est certaine, on ne l'a pas.
On ne l'a pas, les concessionnaires ne peuvent pas en commander. Et on a posé la question à Chrysler Canada qui nous ont dit que le véhicule arriverait ultérieurement, qu'il y aurait un modèle 2022, mais
sans aucun détail.
Sans aucun détail. Alors, c'est vraiment, vraiment nébuleux. En même temps, est-ce qu'on a besoin d'un Wrangler avec un moteur V8 de 6,4 litres?
Non, absolument pas, mais...
C'est probablement le véhicule le plus inutile de la Terre.
Mais il y a bien des choses inutiles qui sont plaisantes,
mais
cela
vraiment,
dit.
Mais vraiment, si tu mets une pelle à neige en avant de ça pour ouvrir ta cour, là, ça doit être pas pire.
Ça doit se faire rapidement.
C'est ça. Puis tout le poids est en avant, fait que la gratte... mort bien.
Wow,
tu vois, ça doit être quand même pas si mal.
Ça me paraît niché comme utilisation, quand même un peu.
Un petit peu. Écoute, je vous glisse un mot sur rouleau suivant pour cette semaine.
Troisième épisode.
Quatrième épisode,
ça passe très vite.
Mais quatrième épisode de deux. Parce qu'on diffusera deux épisodes sur le même sujet. On avait tellement de matière qu'on a décidé de diviser cet épisode-là en deux. On remet en condition un Chevrolet HHR Panel cette semaine pour une entreprise de Trois-Rivières qui, je sais, au moment où on se parle, a déjà roulé plus de 10 000 km à son volant. Alors, c'est un véhicule qui est très, très, très pratique pour eux. Je vous en dis pas plus, mais ça vaut vraiment la peine de découvrir la transformation d'un véhicule qui était bon pour la casse. Je te jure, là, j'ai rarement conduit un véhicule aussi en mauvais état mécanique que celui-là.
J'ai très hâte d'écouter
ça. C'était quelque chose.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Antoine, ces dernières semaines, j'ai mis à l'essai la Porsche Taycan dans sa version 4S, qui est la version, et là j'ouvre de très très gros guillemets, la version de base, là.
Oui.
Parce que, bon, c'est la version d'entrée de cette gamme-là, mais les guillemets sont très très gros parce que c'est une voiture qui coûte quand même plus de 120 000 $ et ça, c'est si on ne coche aucune option.
Ouais.
Donc on s'entend qu'on on s'adresse à un public relativement petit, bien qu'on en voit... En grande quantité, je trouve, dans la grande région de Montréal, en tout cas. Mais bref, petite parenthèse, parce qu'il existe la version Turbo S, et là, on arrive à plus de 200 000 $ donc c'est...
Puis la Cross Turismo qui est magnifique.
Ben, qui est magnifique.
Ah, j'adore ça. Je craque à chaque fois que je vois le dessin ou une photo de cette voiture-là. Je trouve que c'est splendide.
Ben,
question de goût.
Dans le style, je préfère la Panamera dans sa version pseudo-familiale aussi. Là.
Ouais.
Je sais qu'il y a un certain lien entre les deux, là, mais design, ouais. De design de familial sportive, mais je préfère le petit côté.
On est loin d'une Taurus familiale, ça c'est sûr.
Oui, effectivement, effectivement. Mais bref, deux trois mots peut-être parce que bon, cette voiture-là, on en a déjà parlé à quelques reprises. Moi, la première chose que j'ai constaté, que j'ai confirmé au fil des kilomètres, c'est que c'était une authentique Porsche. Donc oui, c'est une voiture électrique, mais c'est une vraie Porsche. L'agrément de conduite est au rendez-vous. La précision de la direction, franchement, c'est sans reproche. Et la finition est bien, parce que quand on est rendu dans ces sphères-là, on est dans la même taille, finalement, que la Tesla Model S, qui est mieux que la Model 3, bien entendu. Mais il y a un monde là en termes de finition et de qualité de matériaux et de douceur. Et la Taycan, là, il y a un monde complet entre les deux. Et je n'hésiterai pas un seul instant à prendre la Taycan avant la Tesla Model S. Pour moi, je ne me pose même pas la question.
Mais en même temps, je veux dire, la Tesla,
c'est une berline plus spacieuse,
ben, c'est que il faut quand même donner à Tesla ce qui lui revient, c'est-à-dire que si la Tesla Model S n'avait pas existé, la Taycan ne serait pas là.
Bien entendu.
Ça,
mais,
c'est évident.
Mais c'est quelque chose d'arriver avec un produit nouveau sur le marché. Ça fait quoi? Presque 10 ans là, que la Model S, on l'a vu pour la première fois.
Ouais.
Bon, ça va, disons, une dizaine d'années pour faire un chiffron. Elle a très, très peu évolué.
Ouais.
Il faut rester à jour, il faut rester pertinent sur le marché. Et malheureusement, elle l'est un peu moins là avec la Taycan qui existe. Là.
Ouais.
Donc,
remarque, on reproche la même chose à Chrysler avec sa 300. Qui reste identique année après année,
oui.
Qui n'évolue pas.
Oui.
Faut croire que
mais il n'y a personne qui est arrivé non plus pour, comme un chien dans un jeu de quilles.
Je dirais que Genesis, avec sa G80, est débarqué cette année et a cloué le bec aux quelques acheteurs qui auraient pu encore s'intéresser à une 300.
Peut-être.
Bien que les acheteurs de 300 aujourd'hui, ils s'appellent Tilden, Discount, Enterprise, Avis.
Et, oui, mais c'est à peu près ça.
C'est une autre histoire et on dérape un peu.
Oui. De ton côté, Antoine, Jaguar F-Pace, un autre véhicule luxueux.
Oui, mais dans une formule beaucoup plus rationnelle. Puis je veux pas dire qu'un Jaguar F-Pace c'est un produit rationnel, mais un véhicule d'à peu près 65 000 $ avec un 4 cylindres turbo compressé, avec un habitacle qui a été repensé, qualité de finition, présentation, qualité graphique aussi de l'instrumentation, de l'écran central. On a tout refait ça et je trouve qu'on a fait un sacré beau boulot. Et quand tu stationnes un F-Pace au centre d'achat à côté d'un Q5 ou d'un X3,
ouais, parce que
c'est pas mal plus joli. Là.
Des F-Pace, ben, non seulement c'est plus joli, mais là c'est subjectif, mais c'est aussi que c'est un véhicule qui est différent de celui de tous tes voisins.
C'est différent, c'est original, c'est racé comme design. La conduite, elle est très intéressante. Et le gros plus de ce moteur 2 litres turbo, c'est le couple initial. Ça répond en un temps record et ça, j'adore ça. Quand on sait qu'il y a des délais à l'accélération sur plusieurs véhicules allemands, et j'inclus là-dedans un Porsche Macan avec le 2 litres ou un Audi Q5, quand tu appuies ou tu effleures l'accélérateur, bien, il y a un délai à l'accélération. Ce que tu ressens pas chez Jaguar, et ça, j'ai bien gros aimé, c'est évident que côté fiabilité, on a encore des croûtes à manger. On le sait chez Jaguar, que c'est toujours un problème. Et la dépréciation est un peu plus forte que du côté des Allemands. Mais je trouve que c'est un produit qui est plus compétitif que jamais. Et on a eu l'impression, avec le F-Pace, lorsque c'est sorti, c'était populaire, on se l'arrachait, les concessionnaires en manquaient. Rapidement,
ça
on l'a comme
estompé,
oublié.
Oui.
Oui, au point où on en vendait pratiquement plus. Et là, je sens qu'il y a une recrudescence. Je sens qu'il y a une seconde vie qui arrive pour ce modèle-là. J'aurai la chance, dans quelques semaines, de conduire l'opposé de du Jaguar F-Pace, qui est la version SVR, un moteur V8 de 500 quelques chevaux, 550.
Il y a un monde, là, entre le 2 litres turbo et ce V8-là. Là,
exactement. Mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même un véhicule encore très pertinent chez Jaguar.
Ça démontre l'étendue de la gamme aussi. On peut avoir un F-Pace comme on le veut, finalement. Là.
Mais tu sais, le problème, c'est qu'il n'y a que ça chez Jaguar.
Oui.
Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu achèterais chez Jaguar à part ça? La F-Type, pour quelqu'un qui veut une voiture super nichée.
Mais j'ai l'impression que, ben encore là, la F-Type, ceux qui voulaient en acheter une l'ont fait et le trip est fini, là. sais.
Oui.
Il n'y a personne qui renouvelle une F-Type pour 3 ans.
Il n'y a personne qui va acheter une XF.
Non, effectivement.
On s'entend-tu? Le E-Pace, c'est un échec commercial monumental.
Et il y a le E-Pace et le E-Pace.
Ouais, le E-Pace qui est le véhicule électrique. Pour moi, c'est un véhicule très intéressant, très pertinent. On n'en a pas. On en vend quelques dizaines par année. La première année, il y en a eu. Puis là, soudainement, ben, on n'en a plus. J'ai l'impression qu'on conserve les unités qu'on fabrique pour le marché européen et qu'on délaisse le marché nord-américain avec ça. Ça aussi, c'est une bonne question, mais ça, c'est un véhicule qui, pour moi, est intéressant. Mais en attendant, si Jaguar survit, c'est en raison du F-Pace. Et c'est un produit que j'avais, je l'admets, presque oublié. Et en remettant à l'essai, ben, j'ai fait, sais-tu, c'est une sacrée belle machine et je le considérerais dans ce segment-là, vraiment.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le guide de l'auto avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, cette semaine, on a un invité multimarque. On peut-tu dire ça comme ça?
C'est pas une sorte de pain, ça, multimarque?
Peut-être, mais chose certaine, il est propriétaire de plusieurs concessions automobiles. Vous avez vu son nom sûrement quelque part.
Et surtout entendu sa voix, je pense.
Oui, c'est ça, c'est ça. Il dit nous attendre. Alors, oui. Nous, on a répondu à son appel et on est là pour lui. Alors, on est avec Denis Leclerc, président du groupe Albi Le Géant. Alors, Denis, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous.
Bon, on va expliquer aux auditeurs qu'on se tutoie parce qu'on se connaît. Alors, moi, je voulais parler avec toi, Denis, parce que évidemment, ça a été des années quand même assez particulières, les deux dernières années qu'on a vécues. Et là, on fait face à une problématique qu'on n'aurait peut-être pas pu anticiper, c'est-à-dire celle de la pénurie. De la pénurie sous toutes ses formes. On manque de véhicules, dans le neuf comme dans l'occasion, on manque de main-d'œuvre, on manque de pièces. Alors, toi qui es propriétaire de plusieurs concessionnaires, qui fait affaire avec plusieurs constructeurs automobiles, je voulais évidemment discuter de ça. D'abord, avoir ton pouls sur comment ça se passe au chapitre de la pénurie de véhicules, comment on fait pour composer avec ça?
Bien, évidemment que c'est encore une fois depuis 2 ans, on a dû se refaire à plusieurs moments avec les ouvertures, les fermetures. J'imagine au niveau des manufacturiers aussi, commandent pas, l'histoire des puces qui manquent.
Ouais.
Est-ce que c'est vraiment des commandes qui n'ont pas été faites? Est-ce que c'est des commandes qui ont été faites, mais vu que les maisons vendent plus de télé, des téléphones, la vie ayant changé, nos puces seraient dans d'autres objets qu'un automobile?
Ah oui, hein?
Moi, je me dis ça aussi. À un moment donné, on sait que on a une usine qui a été flottée, je pense que c'est celle de Toyota. Nissan avait passé au feu, je crois. Il y a un paquet d'enchaînements qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu là. Sûrement aussi que les ventes automobiles sont supérieures à ce qu'on s'attendait. Évidemment, même moi, je ne m'attendais pas que ça serait fort comme ça. On avait prévu un ralentissement, on avait tout fait des objectifs, des forecasts plus bas que notre nouvelle réalité. D'un côté, c'est le fun parce qu'on n'a pas besoin de tenir des stocks énormes d'inventaire, sauf que on va devoir se refaire parce que maintenant, le consommateur va devoir commander son véhicule. Enfin, pour la période, je dirais à partir de maintenant, pour octobre, novembre, décembre, notre consommateur doit s'aligner sur laisser un dépôt peut-être de 500 $ et commander le véhicule de la manière qu'il veut. Et les concessionnaires qui vont vraiment performer, ça va être ceux qui vont mettre l'effort de faire un suivi de la commande. C'est bien beau prendre des commandes, prendre des dépôts, mais notre client devra savoir que le véhicule, maintenant, il est cédulé à être bâti. Il va être bâti Il est bâti, il est rendu au port, à partir du port, il va prendre le train, ça va prendre encore 2 autres semaines ou 11 jours. À partir qui arrive, c'est un autre 3 jours de débarquement. Donc, on va pouvoir estimer une date plausible, sauf dans des véhicules très, très, très spécifiques où ça peut arriver que la chaîne de montage n'est pas complète, puis ils vont dire, OK, ces véhicules-là, on ne peut pas les bâtir. Ça va arriver, mais ça va être une minorité de clients qui ne sera pas bâti. Et ces gens-là, bon, on doit leur expliquer. Si tu vas avoir un camion équipé de A à Z avec un différentiel différent, ou mais ça se peut que lui, tu l'attendes un peu plus. C'est possible. Et pour la bonne chose, pour ceux qui ont commandé en 2021, bien souvent, ils vont recevoir un 2022. Ça va être probablement la même transaction. Fait que le client a gagné un an, dans le fond. Il y a des avantages pour le client, mais comme je vous dis, au début, par manufacturier, on commençait à avoir une baisse d'allocation d'auto. Et je peux dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est général. Tous les manufacturiers en novembre-décembre vont manquer de véhicules. C'est évident. Donc, nous, chez Albi, ce qu'on a mis en place, on contacte nos clients, on a un véhicule à évaluer, on leur explique qu'on va le réévaluer dans 2-3 mois.
Ouais.
Évidemment qu'on peut s'entendre avec le client lorsqu'il nous dit « Moi, je fais 2000 kilos par mois, le véhicule est de tel état en ce moment ». Denis, on s'entend qu'il ne sera pas cabossé tout le tour, mais je vais avoir 6 000 kilos de plus. Est-ce que tu peux respecter le prix de mon échange dans 3 mois? La réponse est oui.
Okay.
On va le mettre par écrit. Dans certains cas, si j'ai un 114 000 km et que le consommateur fait 4-5 000 kilos par mois, lui, je vais être obligé d'y expliquer qu'on va revoir le marché quand il va revenir. On n'exagérera pas. Mais on doit se protéger un petit peu aussi en même temps. Autant, moi, je pense qu'une transaction, c'est bon pour le consommateur, c'est bon pour le commerçant aussi. Quand le marché est bon pour les deux, on fait un bon marché.
C'est clair.
Ça fait déjà quelques mois qu'on parle de pénurie, mais toi qui possèdes plusieurs bannières, à l'intérieur de ces bannières-là, est-ce que il y a des modèles qui sont disponibles en ce moment, donc demain matin, bon, pas demain matin parce que c'est la fin de semaine, mais lundi matin, je veux me procurer un véhicule neuf, je débarque dans une concession, qu'est-ce qu'on a de disponible qu'on peut prendre possession au cours de la semaine?
C'est aléatoire par manufacturier, mais oui, on peut recevoir sur 2 semaines une dizaine de saules. Puis dans 2 semaines, j'ai plus de saules, mais je reçois une dizaine de, mettons, le nouveau Kia Seltos.
Ouais.
Mais j'en ai encore pour 10 jours. Fait que c'est aléatoire. On peut pas dire, comme Mazda, maintenant, en ce moment, j'ai peut-être une trentaine de CX-5. Une trentaine de CX-5 pour Albi, c'est
même pas 10% de ce que c'était il y a 2-3 ans. Là. C'est ça.
Pas compliqué, si on parlera en dollars, là, j'ai tenu jusqu'à 250 millions d'inventaires, puis aujourd'hui, j'en ai 50. Ben, j'ai 25% de l'inventaire qu'on avait avant. Comme je disais tantôt, pour nous, c'est correct d'un côté parce qu'on sauve des frais d'intérêt.
Ben oui.
En même temps, ça nous permet de faire un meilleur deal aux consommateurs aussi, puis de garder notre personnel parce que si on va plus loin, pour le mois de novembre, décembre, janvier, on va devoir supporter nos collègues artistes. Là. Parce que si on en a... Comme j'expliquais tantôt, ce que j'ai compris des manufacturiers, ce que tout le monde a l'air à bien communiquer, si je vends cette semaine 25 Kia chez Albi Kia à Mascouche, je mets 25 commandes dans le système, je vais sûrement en avoir 23, 24, puis je vais avoir peut-être à jouer avec un ou deux clients pour leur déplacer ou ils vont me donner les véhicules. Autrement dit, le mois dernier, je pense qu'on a livré 125 Kia, mais le mois est fini aujourd'hui, là. Puis j'en avais 25 en stock. Donc, j'ai 100 clients qui ont reçu leur auto qui était déjà précommandé.
Est-ce que je me trompe si je dis que il y a peut-être un accès à des véhicules plus facile chez les Coréens que chez des Américains pour des camionnettes, par exemple? On a l'impression que des véhicules, c'est presque un rêve aujourd'hui de penser pouvoir mettre la main là-dessus, alors que quand je passe devant un concessionnaire Kia ou Honda, ben il y a des rangées d'Honda Civic.
Chez Honda, on manque pas de Civic ni de CR-V.
Je me dis, il y a peut-être...
La pénurie n'est pas égale partout.
C'est ça.
Exactement, exactement. Ça, c'est... Moi, je parlais avec un concessionnaire hier, puis il me disait qu'il y en avait un peu d'Honda en stock. Mais encore ça, moi, si tu viens aujourd'hui, j'ai beaucoup de Mazda.
Ouais.
Tu reviens le mois prochain, ma cour va être vide.
OK. Fait que c'est très inégal.
C'est très inégal, ça se promène. Donc, pour vraiment... Si je sais que le consommateur n'est pas habitué. On avait tellement d'inventaire avant que le client y arrivait, puis c'est payé, emporté, puis on s'en va. Maintenant, il faut vraiment que les gens s'alignent à dire, je sais ce que je veux, je vais le commander, je vais m'assurer de protéger la valeur de mon échange. Il ne faut pas oublier aussi que si j'y garantis son échange pour 3 mois avec 6000 kilos, puis s'il en fait 10, c'est pas grave, là. S'il en fait 24, ouais. Parce qu'il fait 2 voyages en Floride, qui est moins tentant, là. OK?
Ouais.
Mais, non, mais on se le fait faire, malheureusement.
Il passera par le Mexique.
Ouais, c'est souvent l'exception qui force les règles. Hein?
Ouais.
C'est un petit peu ça. Alors, si notre client vient et nous dit, regarde, je vais en faire entre 6 et 8 000 kilos, je vais y protéger son prix, puis pendant ce temps-là, sa dette va baisser. Fait que sans correction de prix, quand il va prendre livraison, il va avoir une équité de gagner. Puis s'il va l'avoir gagné, c'est moi qui vais supporter la valeur de son véhicule.
C'est intéressant ce que tu mentionnes là parce que ça m'amène peut-être sur ma prochaine question. Parce que qui dit pénurie de véhicules neufs dit forcément pénurie de véhicules d'occasion. Et
monter des valeurs.
Et monter des valeurs.
D'occasion sont montées en flèche, là.
Exactement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que comme il y a une majorité de Québécois qui, il y a 3-4 ans, louaient leurs véhicules plutôt que de les acheter, je me dis, la valeur résiduelle qui a été établie lorsqu'on a loué un véhicule en 2018, elle ne reflète plus la réalité de la valeur du véhicule aujourd'hui parce que, voilà. D'une part, le véhicule a moins de kilométrage qu'il aurait dû en avoir, puis deuxièmement, parce qu'il n'y en a pas, l'effet d'offre et de demande n'est pas la même. Alors, toi, tu fais quoi? Est-ce que tu rachètes ces locations-là plus chères? Comment ça marche?
Eh oui, on les rappelle toutes. Le client l'année passée, mettons, qui aurait eu, mettons, ce qu'on on dirait une équité négative de 3 000 $ sur son véhicule, OK?
Ouais.
Aujourd'hui, il n'y en a plus.
C'est ça.
Il est à zéro ou il est à profit. Donc, nous, on a une équité. Naturellement, là, c'est parce que je suis en train de donner des trucs de succès commercial.
Mais oui, mais on aime ça.
Ouais, je partage ça avec mes confrères de la confrérie, c'est bon. Mais non, effectivement, on a des équipes en ce moment qui rappellent tous les clients sans les harceler naturellement dans des heures logiques. Là, on ne s'appelle pas pendant les émissions le soir et pendant le biberon non plus.
Oui, ça a l'air que District 31, c'est bien sacré au Québec.
Oui. Ben, on lui communique la bonne nouvelle, puis il y a des clients qui sont agréablement surpris. Et on fait des transactions. Par contre, encore là, c'est une transaction pour dans 2-3 mois parce qu'on ne pourra pas le livrer vite. Et on y explique qu'il y a l'équité supérieure en ce moment. On va y garantir son prix pour dans 3 mois. Il se met en position de commande, puis on va le livrer dans 3 mois. Et ce que je comprends des manufacturiers, de plus en plus, ils réduisent nos allocations. D'après moi, ils gardent des véhicules pour donner aux clients vendus. Mais là, je te donne un secret de polichinelle.
Ouais, c'est ça.
Je n'aimerais pas le manufacturier, mais il y en a un qui m'a coupé des véhicules que j'avais des numéros de série qui n'étaient pas vendus.
OK.
Ils ont repris, puis moi, je suspecte qu'ils sont après se faire des banques. Puis avec ces banques-là, quand on va avoir des factures signées, ils vont combler le vide. Alors, nous autres, on a juste à faire des commandes. C'est tout. Et les clients vont envoyer leurs autos. Et c'est tout l'ordre du concessionnaire sur une commande. Si tu suis le client... Moi, j'ai vendu des autos sans les vendre. Le client me disait, hey, on va envoyer ça, ce produit-là, dans 3-4 mois. Personnellement, avec mes agents que j'ai entraînés moi-même, là, je le fais moi-même,
ouais.
Je suis un perfectionniste, on rappelait le client, regarde ton auto là, que tu n'as pas encore vu, que tu n'as pas encore acheté, là, elle est là. Puis un jour, elle va débarquer du bateau. Là. Puis ce même client-là, il était loin de chez nous. Bon, il a tellement donné les bonnes réponses qu'on l'appelait peut-être aux 2 semaines. Quand il est arrivé, il dit, j'ai fait 2-3 concessionnaires, voici les chiffres que j'ai. Si tu matches ça, il faut que je le prenne ici. J'ai vendu, c'est sûr. Alors, les gens veulent juste se faire sécuriser que cette nouvelle forme de vente commande-là, on sait que les gars de camions, ils en commandaient des trucks. Fait que vous me parliez des camions tantôt. Le gars de camion, il attendait 3 mois, là, il va peut-être attendre 6 mois. Ça a différence vraiment, mais lui, il est habitué de commander son truck, puis il roule avec le sien en attendant, puis les camions prennent de la valeur, puis souvent, ils se ramassent aux États-Unis, puis ça dépend du taux de change.
Fait c'est peut-être un peu moins vrai de ce temps-là, là, mais ouais.
Ouais, mais ils vont attendre 6 mois pareil. Ça va être ça, un camion. Là. Ça va être entre 4 et 6 mois. Encore là, je parlais tantôt, il faut faire attention à l'exception de l'exception qu'elle, elle peut être plus longue. Là. J'imagine, si tu commandes un Hummer aujourd'hui, j'ai pas encore ta date. Là.
Non. Non, c'est ça.
Des Hummers, j'en ai 12 ou 14 de vendus.
Puis des Corvettes, c'est effrayant.
C'est la même chose. Une Corvette, c'est un Hummer. Ça va être la même affaire.
Ouais. C'est juste pas sur le même terrain que ça aime aller jouer. Mais ça, c'est une autre affaire. Écoute.
Il va être électrique.
Ouais, c'est ça. Écoute, tu me parles de différence entre certains manufacturiers, Denis. Moi, je me suis laissé dire qu'il y a des manufacturiers de ce temps-là qui ont... parce qu'évidemment, bon, on le sait, là, un concessionnaire, le nerf de la guerre, c'est de supporter l'inventaire. Si tu as moins d'inventaire à supporter, la profitabilité, veut pas, est là. Elle est plus intéressante par véhicule vendu quand ça reste pas longtemps dans le cours. Mais il y a des constructeurs automobiles qui, ces temps-ci, forcent les concessionnaires à piner, ou si tu me permets aussi, à
pré-enregistrer,
merci le terme, à pré-enregistrer des véhicules qui seraient non vendus et qui seraient même pas encore dans ta cour. Alors,
je veux dire, moi, sérieux, j'ai pas ça dans mes marques, là.
T'as pas ça dans tes marques, parce que...
Ah, mais je suis anti ça, là.
Ouais, ouais.
Pas là, moi.
Parce que là, évidemment, les constructeurs automobiles ont encore, dans certains cas, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais ont encore l'objectif de vouloir afficher des ventes toujours plus hautes, toujours plus hautes, toujours plus hautes. Et on en reparlera un peu plus tard dans l'entrevue, mais évidemment, le marché a changé aujourd'hui. Tu penses quoi de ça, toi?
Moi, je vais te donner un exemple. Mettons, Hyundai a fermé avant le temps parce qu'il y avait assez de ventes. Ça, c'est le contraire de ce que tu me dis. Là.
Ah oui, hein?
Ah, wow. Je pense que Hyundai a fermé ce matin ou hier soir, qu'on ferme d'habitude à minuit la journée de la fin de mois.
Faut peut-être expliquer aux gens que fermer, ça veut dire fermer un mois, enregistrer les ventes du mois.
Pas fermer la porte d'en avant, là.
C'est ça.
Autrement dit, eux autres, ils ont un plan, puis à date de avant le temps, ils nous ont dit on ferme, puis c'est beau, on s'en va au mois prochain. Fait que, non, ce que vous me dites là, je l'entends, là, je suis dans ce business-là, mais avec la pandémie, je verrais plutôt le contraire.
OK.
Parce que l'autre chose aussi, le concessionnaire qui mettons que je suis prêt à enregistrer, ben je peux perdre la location aussi. Là. C'est pas.
Ben oui.
Je vois pas l'intérêt, je vois pas. Je comprendrais pas. Je comprendrais pas. Tu sais, t'es à 4999 autos, puis il en manque une. Correct. On va mettre 5000, on a 5 démos, on a-tu quelqu'un qui est prêt, qui va vraiment l'acheter. Il manque une pin. C'est correct, là, tu veux faire un record mondial. Mais en ce moment, ce pré-enregistrement-là, moi, dans mes franchises, ça n'existe pas. Et aussi, j'ai choisi aussi de travailler pour ceux que je veux travailler. Hein. Parce que moi, je suis peut-être un président, mais quand t'es un franchisé, t'es pas nécessairement le patron. T'es le patron d'une partie de la business, puis l'autre business, c'est ton manufacturier qui est le patron.
C'est un rôle intermédiaire, là, finalement.
Tout le temps. Et moi, j'ai choisi de travailler pour ces franchises-là.
Puis, évidemment, ben, d'un constructeur à l'autre, les choses sont souvent très différentes. Les façons de faire, la mentalité, c'est pas la même chose.
J'ai de l'affinité avec Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, puis les produits de GM. J'adore GM. Et on n'a pas de... J'ai pas de plainte de clients. Ça va bien. Ça va vraiment bien. Comme je disais tantôt, les gens comprennent. Puis avec des bonnes explications, puis de la vraie business ancienne poignée de main, là, qu'on se donne plus d'ailleurs, là.
Ouais.
c'est ça qui va perdurer. C'est là qu'on s'en va.
On a parlé de pénurie de véhicules neufs, pénurie de véhicules d'occasion, mais il y a une autre pénurie qui touche plus que l'industrie automobile, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Toi, avec tes concessions, comment tu te débrouilles à ce chapitre-là?
Ben, nous, ce qu'on a fait, on a majoré le taux de base. Je me rappelle dans le temps, le départ d'une personne. Moi, j'ai commencé le laveur de véhicules. Okay, ma première chose dans l'automobile, j'avais peut-être 10-11 ans. Moi, j'étais laveur. Bon. Un laveur, ça commençait à 12-11 $ de l'heure, 12-13, puis on avait une petite majoration la deuxième année d'un dollar, la troisième d'un autre dollar, tu étais rendu à 15, tu en avais à 16. Pour matcher la CPU, pas bien le choix, la PCU, c'est-à-dire, excusez-moi.
Ouais, ouais, ouais.
Pour la matcher, nous, on a commencé à 19 $ de l'heure. J'ai commencé par prendre mon salaire de base, le monter à 15, quand on a entendu parler qu'on s'en allait peut-être à 15. Moi, j'étais allé à 15 tout de suite, je me suis dit, garde, premièrement, je me dis que le jeune veut grandir, puis tout, il veut se payer un appart, là, à 12 $ de l'heure, ça ne marchera pas. Fait que je suis monté à 15, puis au retour du COVID en mai 2020, Ouais. Je suis monté à 19 $ de l'heure. J'avais mis 1 $ de présence. Vous allez rire, là, mais...
Comment?
1 $ de présence. Fait que dans le fond, je donnais 20 $ de l'heure, mais c'était 19 plus 1 $ de présence. Si t'étais pas absent de la semaine, t'avais 1 $ de plus.
Ben voyons donc. De la semaine, pas de l'année, là, de la semaine.
Juste dans la semaine. C'était mon plan. C'était 19 plus. Je voulais donner 20, mais je cherchais une manière que je perde pas tout le temps quelqu'un une journée. Donc, j'ai dit, je vais mettre 20, puis j'aurais dû faire 18-2, mais en tout cas.
Et là, évidemment, tu me parles de laveur. Moi, c'est parce que quand je pense à une concession automobile, je pense à un département de comptabilité, je pense à des mécaniciens, je pense à des gars qui travaillent en carrosserie, évidemment, à tous ceux qui s'occupent du renouvellement des ventes, tout ça. Les employés dans toutes les sphères d'une concession sont tellement convoités un peu partout que de garder son monde, c'est pas évident, là.
Ça fait 15 minutes de t'ajuster. Pas compliqué. Si tu t'es pas... nous autres, ce qu'on a fait, on s'est ajusté avant. On a baissé un peu notre masque pendant le COVID automatiquement. Puis au retour, on a dit, OK, avant de rentrer tout le monde, là, on va regarder ceux qu'on rentre, si on peut les garder, puis si on peut s'ajuster au marché. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est ajusté au marché avec tous ceux qui sont là. C'est pour ça que j'ai presque 55%, 60% des gens qui ont plus de 5 ans chez Albi. Aujourd'hui, plus de 5 ans, c'est beaucoup.
Ouais.
Alors, mais j'ai commencé parce que c'est plus facile de retenir que de reformer encore. Là. On sait que la formation, c'est pas rien que ça coûte cher, ça prend du temps. Puis pendant le temps que tu fais de la formation, bien, le consommateur, il souffre de faire affaire chez vous.
Ce que tu veux pas non plus, c'est former quelqu'un pour quelqu'un d'autre après.
Exactement. Ouais. Puis le moins possible, mais on n'est pas à l'abri de ça. Puis aujourd'hui, les gens vont bouger. Fait avant, nous autres, chez Albi, on avait des belles soirées puis des parties. Regarde, on a une loge au Centre Bell. Tout le personnel va aller voir un show ou va aller voir une partie de hockey. Tout le monde va y aller. C'est pas toujours les mêmes, là. Tout le monde va aller là. On a des avantages.
Alors, c'est pour ça que tu n'as pas de concessionnaire à Québec.
C'est plus dur d'aller voir du hockey à Québec.
C'est ça. Ouais.
Oh là là. Fait que c'est ça. On s'est vraiment ajusté avec les salaires partout. Ça, c'est la première chose. Puis après ça, ben, les horaires. Il a fallu travailler les horaires parce que et les gardiennes, demander à être ici à 8h15 le matin, ça n'existe plus. C'est 9h. Parce qu'entre 7h30 et 9h, ils sont en déplacement. Et la comptabilité, ça rentrait à 8. Maintenant, c'est les heures changent. Il faut qu'ils partent à 3h30 souvent parce qu'il faut qu'ils soient. Il faut qu'ils aillent chercher l'enfant avant 4h ou avant 4h15 ou 4h30 à l'école. Tout ça, ça a tout changé. Le télétravail qu'on vit avec. Dans certaines sphères de mes commerces, le télétravail peut fonctionner, mais dans d'autres, ça marche pas.
Non, c'est ça. Donc, ce que tu me dis, c'est que c'est pas uniquement une question financière.
Non, du tout. Du tout, du tout. Premièrement, nous autres, on est un people business. Ça a toujours été l'automobile, c'est ça.
Ouais.
C'est un people business, puis on est people nous-mêmes. Moi, j'ai pas eu d'enfants, mais j'en ai une grande famille d'enfants, puis ça m'occupe énormément, mais j'aime ça. Puis quand j'aime pas ça, ben là, c'est moi qui s'absente le temps de prendre un petit break, puis je reviens après. Mais c'est un peu ça. On n'aura pas besoin... Tu sais, je regardais là où on est maintenant dans l'embauche.
Ouais.
On a peut-être une trentaine de postes. Bien, je vais peut-être réduire ça à 16 ou 17 postes à combler parce que pour ce qui est des ventes, j'embaucherai pas parce que je vais devoir supporter les collègues qui sont là actuellement qui... Bon, peut-être l'entendre à la radio là, mais les gens se doutent même pas là que ça se peut qu'on ait moins d'ouvrages en novembre, décembre, janvier. Puis l'entrepreneur qui est prudent, puis je parlais avec un autre concessionnaire de groupe hier que j'estime, puis il me dit « Denis, t'as-tu un plan pour supporter ton monde? » Bien, j'ai dit « On est en train de le fabriquer, puis on va dévier, puis j'ai des agents qui font des appels, bien, on va les différer dans le service. » On va en profiter pour ces 3-4 mois-là pour refaire nos banques de données,
ouais.
aller se redocumenter sur notre client.
Alors, se réinventer une autre fois, finalement, là, parce que c'est ce qu'on fait pas mal depuis un an et demi.
Oui, puis quand les autos vont rentrer en malade mentale, parce que moi, je pense qu'en 2022, peut-être au milieu de l'année, on va peut-être revenir à normal. J'ai pas de boule de cristal, je me l'étais promis pour l'automne, puis je me suis un peu planté. J'ai l'impression que j'étais dans le jet. Mais quand on va revenir à normal, on va vivre une effervescence de fou. Fait que vous être prêt encore. Fait que donc, Moi, dans ma tête, on se prépare. Pendant qu'il y a des genres de coups qui arrivent ou des situations qui arrivent, si tu es proactif, ben, utilise ce temps-là pour peaufiner tes affaires. Parce que quand ça roule, tu n'as plus le temps de peaufiner.
Ah ouais. Écoute, Denis, je veux terminer en parlant de Mazda. Parce qu'évidemment, Mazda, c'est la marque que tu as tatouée sur le cœur depuis très, très, très longtemps.
Deux bagues.
Ouais, c'est ça. Ben, écoute, moi, je me souviens d'avoir eu une discussion avec toi où Mazda, c'était ton bébé. Évidemment, t'as grossi avec le temps, tout ça, mais il fut une époque où t'étais le plus gros vendeur Mazda au monde, où tu faisais énormément de volume. Et on constate aujourd'hui que Mazda prend une direction qui est un peu à l'opposé de cette philosophie-là, en ce sens que on vend des véhicules qui sont peut-être plus raffinés, plus chers, pas accessibles nécessairement à la masse comme c'était le cas à une certaine époque. Et toi, j'imagine que, considérant le plan d'affaires que tu avais vis-à-vis de cette marque-là il y a plusieurs années, ben, tu n'as pas le choix de t'ajuster. Comment ça marche au juste?
Écoute, c'est tellement vrai ce que tu me dis. Je peux te dire que ça m'a peut-être pris un peu de temps à m'ajuster.
OK.
Effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose parce que on est parti de 4000 voitures puis on a descendu jusqu'à 1500. Là, on en remonte à 2000 puis aussitôt qu'on a des voitures, je pense qu'on a le chemin pour revenir à 3000 puis on devrait reprendre notre chemin de croisière. Mazda a décidé de faire un chemin de cas par cas. Il veut qu'on prenne plus de temps avec nos clients. Les automobiles sont rehaussées, Mazda a toujours eu des beaux designs, ça, je sais pas, à part d'une année ou deux, là, Mazda a toujours un auto que tu as le goût d'acheter, mais maintenant, les trims des cuirs à l'intérieur, c'est fou, puis la technologie dans nos autos sont vraiment là, donc, c'est vrai qu'avant, nous autres, on vendait des hot dogs un peu, là, on vendait comme du fast-food, puis maintenant, il faut prendre le temps de vendre la qualité de ce produit-là. Et ça a dû commencer par, pas nécessairement moi, parce que moi, j'ai pas compris bien, bien vite, là, mais les gens autour de moi, parce que je suis vraiment bien entouré, eux l'ont trouvé, ils l'ont compris, puis lors d'un souper, moi, ici, on dit, Denis, maintenant, quand on vend plus un Mazda, on présente un Mazda. On présente les avantages, la qualité. En travaillant comme ça, on a tellement une grosse banque de clients qu'on les rassoit dans des Mazda. Puis on avait baissé aussi un peu parce que dans le temps, j'avais juste Mazda aussi. Donc, si tu voulais acheter Denis Leclerc et son équipe, il fallait que tu achètes un Mazda. Parce que tu achetais Denis Leclerc et tu achetais l'équipe parce que tu achetais ce qui venait avec ces gens-là. Okay? Tu achetais le service qui venait avec. Puis ouais. Tout le monde parle de service. Moi, je vais te parler d'intégrité. Je vais te parler d'une transaction qui est... Tu vas t'en aller. Puis si tu reviens et il y a un doute dessus, bon, on va s'entendre pour que le doute se dissipe puis qu'on reparte comme du monde parce qu'on fait des erreurs, on est humain. L'équipe de Denis Leclerc, à un moment donné, ben, a acheté un Nissan, a acheté Hyundai, a acheté Kia. Et nos clients ne sont pas gênés pour aller choisir un autre modèle. Si j'avais seulement Mazda, on en vendrait encore 4-5 000, c'est sûr. Maintenant, pour refaire ce 3-4 000-là, dans le nouveau modèle de Mazda et on est après s'ajuster. Puis là, malheureusement, c'est difficile à montrer par rapport au manque de véhicules. Ben, j'ai l'impression que si on a cette conversation-là, à la fin 2023, on va peut-être pouvoir apporter des réponses plus précises.
Denis, c'est un rendez-vous à ce moment-là. On va mettre ça au calendrier.
Nous y serons.
Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'était super intéressant. Et puis, bon succès dans les mois à venir. On a bien hâte de voir comment cette industrie-là va se diriger.
Merci, Denis.
Hey, merci de votre temps. Au
merci,
revoir.
Au revoir.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Comme chaque semaine, on finit ça avec quelques questions du public. On a Yvon qui nous mentionne que grâce aux subventions, il remarque que les prix du Toyota RAV4 hybride et du Toyota RAV4 Prime sont sensiblement les mêmes au Québec. Lequel des deux tu lui recommandes? Rien n'est urgent dans son cas puisque son Toyota RAV4 2011 à moteur V6 n'affiche que 145 000 km au compteur.
Et ça, c'est un véhicule qui vaut son pesant d'or. Absolument. Sur le marché d'occasion. Lequel je recommande? C'est certain que le RAV4 Prime, c'est le véhicule de l'heure dans ce segment-là. Parce que, oui, c'est un véhicule qui va bien, qui est performant, qui est polyvalent. À choisir entre les deux, je choisirais le Prime, mais il n'y en a pas. Alors, vous êtes patient, vous acceptez de patienter un an et demi, deux ans avant de mettre la main sur ce véhicule-là, bien, commandez votre Prime. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que il se peut qu'il y ait bien des véhicules qui débarquent sur le marché d'ici ce temps-là qui feraient en sorte que dans deux ans, un RAV4 Prime pourrait ne pas être aussi alléchant qu'il l'est présentement.
Ou et du moins, sait, moins à jour, là.
Moins à jour. Et qui sait si les subventions qu'on connaît actuellement seront les mêmes dans deux ans? Parce que pour moi, la subvention qu'on accorde au RAV4 Prime, c'est une tricherie du gouvernement par rapport à la compétition. En ce sens que pourquoi on a droit à 13 000 $ de crédits gouvernementaux? Parce que la batterie est plus grosse que 15 kWh. Elle a 18,4, je crois. Alors qu'une compétition comme le Ford Escape PHEV, ben, a 14.
On commence à livrer, hein, d'ailleurs. On commence à livrer. En passant, on en avait parlé à plusieurs reprises ici. Et on sait qu'on avait eu des problèmes d'incendie en Europe avec le Kuga. Mais là, on commence à livrer des Escape hybrides rechargeables, ben, finalement.
Ben, qu'il y a de la compétition qui arrive. Il y a aussi Hyundai et Kia qui arrivent avec des véhicules hybrides rechargeables en compétition, mais sur lesquels on applique 6 500 $ de crédit, pas 13 000. Et c'est logique pour moi, parce que pourquoi on appliquerait un crédit de 13 000 sur un véhicule qui n'est pas 100 % électrique? Moi, ça ne me rentre pas dans la tête, mais Toyota a fait ce tour de force-là. Il y a des gens qui travaillent chez Toyota avec les gouvernements qui sont très habiles.
Le lot de lobbyistes est très futé.
Alors, tu sais, cherchez pas, là, ce RAV4-là connaît du succès pour ça, est en demande pour ça. C'est la folie furieuse.
Et imagine si on pouvait répondre à la demande.
Si on pouvait répondre à la demande. L'affaire, par contre, c'est que si ce véhicule-là, demain matin, voyait son crédit passer de 13 000 à 6 500, bien là, on trouverait soudainement qu'il est trop cher.
Et que l'hybride conventionnel, c'est bien correct,
et
finalement.
C'est ce qui serait logique, si vous voulez mon avis. Alors, moi, je dirais, vous êtes satisfait de votre RAV4 2011, il est payé, son empreinte écologique est faite, étirez-le, continuez à le rouler, commandez votre RAV4 Prime maintenant, et lorsqu'il arrivera dans deux ans, si le taux de financement, si le prix, si les conditions et si le contexte vous plaît, là, vous pourrez passer au RAV4 Prime et vendre votre véhicule par vous-même à très gros prix. Et si jamais vous n'avez pas envie, finalement, de passer au RAV4 Prime à ce moment-là, bien, vous pourrez choisir autre chose ou conserver votre RAV4 actuel encore un peu plus longtemps. Mais bref, il n'y a pas de risque en ce qui vous concerne. Tout ce que ça va vous coûter, c'est quelques centaines de dollars de dépôt que vous pourrez récupérer dans deux ans si jamais le véhicule ne vous plaît pas. Mais entre un hybride et un Prime, si vous avez le temps d'attendre et si vous avez le budget pour assumer un Prime, parce que ça va quand même coûter un petit peu plus cher en bout de ligne, allez-y au Prime.
On a Alana qui nous mentionne qu'elle vient de louer un Honda HR-V 2021 pour un terme de 4 ans. Elle parcourt de 12 à 13 000 km par an et même si elle a une allocation de 20 000 km par année, elle a choisi la durée de 4 ans car elle sait qu'elle ne voyage pas beaucoup et qu'elle compte mettre de côté des liquidités pour acheter le véhicule à la fin du bail et ainsi avoir la plus petite somme possible à financer. Si elle n'a pas décidé d'acheter au départ, c'est que son dernier véhicule était une Subaru Impreza et malheureusement, c'était un Citroën, dit-elle. Elle a dû s'en départir étant donné que la garantie était sur le point de se terminer et qu'elle était fréquemment rendue chez le concessionnaire. Est-ce que elle a fait une bonne affaire selon toi? Elle a l'intention de garder le véhicule finalement longtemps.
Bien, le HR-V, c'est un bon produit. C'est un véhicule qui est fiable. C'est pas un véhicule qui est à jour sur le plan technologique par rapport à certains véhicules en compétition.
Il y a une nouvelle génération qu'on continue d'attendre.
Prochainement. Mais en même temps, vous avez un véhicule qui a une excellente valeur de revente, qui sera d'une grande fiabilité, j'en suis certain. Le fait de le louer plutôt que de l'acheter va vous revenir peut-être un petit peu plus cher que si vous l'avez acheté initialement, mais ça vous permet une chose, ça vous permet de voir si vous l'aimez comme il faut, ce véhicule-là, et si dans 4 ans, vous déciderez de le racheter et de l'étirer. Peut-être que ça va vous coûter 1 500, 2 000 $ de plus en bout de ligne, mais vous aurez eu un véhicule, vous aurez eu la chance du moins de l'essayer et de découvrir si vous l'aimez amplement pour le racheter par la suite et de tout toute façon, c'est certain, même dans le contexte où vous ne l'aimez pas, que je vous recommanderais son achat dans 4 ans, parce qu'à 12 000 km par année, quand vous avez le droit à 80 sur 4 ans, bien, ce véhicule-là va probablement valoir beaucoup plus cher que la valeur résiduelle qui est inscrite à votre contrat. Alors, oui, vous avez fait une bonne affaire, c'est certain.
Question rapide en terminant. On a Philippe qui aimerait connaître ton avis au sujet de 3 mini-fourgonnettes, la Toyota Sienna All-Wheel Drive XLE hybride, évidemment, parce qu'elles le sont toutes, 2022, de la Chrysler Pacifica hybride rechargeable 2022 et finalement de la Dodge Grand Caravan 2022 aussi.
Bien, vous voulez une tranquillité d'esprit, vous allez chez Toyota. Hein? Chrysler a une technologie super intéressante avec la Pacifica hybride, mais on a connu des ratés en matière de fiabilité, malheureusement, et la dépréciation est quand même assez forte. Par contre, il faut considérer qu'il y a un crédit gouvernemental applicable de 13 000 $ sur ce véhicule-là qui vient balancer les choses, parce qu'au prix de détail, c'est un véhicule qui n'aurait pas de bon sens à acheter. Mais avec le crédit applicable, c'est quand même pas pire. Sauf que pour du long terme, j'ai quand même pas le choix de vous dire qu'une Toyota Sienna, ça demeure le véhicule le plus intéressant. Et la Caravan 2022... honnêtement, je crois qu'on l'a échappé complètement. C'est un véhicule qui est trop cher pour ce que c'est. Bien que les qualités soient là, c'est un véhicule qui est trop cher pour ce que c'est. Alors, vous choisissez entre une Sienna ou une Pacifica hybride, mais sachez qu'avec la Pacifica hybride, pour du très, très long terme, vous risquez d'avoir un petit peu plus de problèmes que du côté de chez Toyota. Peut-être que de considérer une garantie prolongée sur le groupe motopropulseur pour la Chrysler, ça vaudrait la peine par rapport à Toyota. Regardez aussi les taux de financement de location, hein, parce que Toyota, le prix initial peut sembler intéressant, mais les taux de financement sont très élevés. Et ça peut faire pencher dans la balance. Puis oubliez pas non plus que votre Chrysler Pacifica, bien, vous êtes capable de rouler aisément entre 45 et 60 km en mode 100% électrique avant de commencer à utiliser le mode hybride, où là, vous aurez une consommation d'essence qui équivaut à celle de la Sienna hybride en tout temps. Alors, si vous faites de petits trajets quelques fois par jour et que vous pouvez vous brancher, bien, la Pacifica pourrait devenir finalement financièrement très intéressante.
Merci beaucoup, Antoine.
Cube Radio.